France Culture.
Entrez donc dans la danse des Midis de Culture, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Tout à l'heure, à partir de 13h, je recevrai le comédien François Cluzet et le metteur en scène et comédien Emmanuel Noblet. On parlera de la pièce Encore une journée divine. Mais d'abord, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour Marie.
Bonjour à tous. Comment réagir devant les coupes budgétaires massives dans le monde de la culture? Vous avez reçu, Marie, à ce micro il y a quelques jours, l'acteur Nicolas Bouchaud pour évoquer son travail. Il nous parle aujourd'hui de son inquiétude et de son combat contre l'idée que la culture subventionnée serait une culture élitiste. On l'écoute. Nicolas Bouchaud, bonjour.
Bonjour.
Le monde de la culture est préoccupé, c'est un faible mot, par les nombreuses coupes budgétaires, 70% au Pays de la Loire, 100% de coupes annoncées dans le département de l'Hérault, sans parler de la région Rhône-Alpes. Comment vous, en tant qu'acteur, vous réagissez à ces annonces?
Il y a eu un premier marqueur, à mon sens, à l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy, et de sa fameuse lettre de mission signée avec François Fillon, qui demandait à la ministre Christine Albanel de faire bien attention à ce que la création artistique rencontre les attentes du public. Alors déjà, là, il y a quelque chose qui a commencé là, parce que ces coupes budgétaires, en fait, moi, ce qui me frappe, évidemment, on les déplore, mais à mon sens, elles ne sont pas uniquement, il ne faudrait pas simplement les lier uniquement à la participation de l'ensemble de la société à la réduction de la dette. Je pense que ces coupes budgétaires, à travers les discours qui les accompagnent, et notamment des présidents et des présidentes de régions, sont aussi idéologiques. Et je trouve les discours des unes et des autres très offensifs.
C'est-à-dire, par exemple, quand on entend la présidente de région Pays de la Loire dire qu'en fait, il vaut mieux flécher l'argent sur le social que sur la culture?
Oui, absolument. Ou alors lorsque Stéphanie Pernaud, première vice-présidente de la région Rhône-Alpes, justifiait les baisses de subventions décidées par Laurent Wauquiez, elle dit la chose suivante. Elle dit, vous savez ce que c'est que le problème de la culture en France? C'est qu'on accompagne beaucoup trop de métiers. S'ils vivaient sur leurs entrées, donc les saltimbanques, hein, nous aurions une certaine vérité populaire. Donc là, il y a un mot qui est important, qui est lâché, c'est populaire. Qu'ils vont opposer en général à élitisme. La culture, et a fortiori la culture subventionnée, serait élitiste, c'est-à-dire pas conforme au goût de la majorité des gens. C'est un mensonge. C'est-à-dire qu'il faut maintenant démonter ce discours idéologique-là. Christelle Morançais, présidente de la région des Pays de Loire, qui se prive pas de parler dans tous les journaux et qui exulte vraiment à chacune de ses interventions, elle dénonce aussi l'élitisme des beaux quartiers en parlant de la culture, et qu'elle oppose au bon sens populaire. Et elle dit aussi que sa région ne doit pas être un carnet de chèques ambulant. Et surtout, elle se targue d'avoir brisé un tabou en s'attaquant à la culture. Mais tous ces discours sont idéologiquement situés. Parce qu'opposer un soi-disant élitisme de la culture subventionnée à une vérité populaire, c'est des éléments de langage qui en réalité disent une seule et même chose, c'est que pour le capitalisme culturel, une culture subventionnée est une anomalie. Parce que ça ne rapporte pas assez, parce qu'il n'y a pas assez de plus-value. Parce que cette vérité populaire, qu'on peut appeler aussi le goût du public ou l'attente du public, est une pure fiction du capitalisme culturel, de l'industrie culturelle. Hein, c'est un tour de passe-passe qui permet de faire passer le pouvoir du capital pour la demande des consommateurs. C'est ça qu'il y a au fond de ces discours-là. Et c'est ça qu'il faut combattre, en fait.
Et alors justement, comment le combattre? Comment redéfinir les mots? C'est-à-dire là, vous employez le mot élitiste. On avait cette fameuse phrase qu'on entend à Avignon chaque année, le théâtre élitaire pour tous. Enfin, j'ai l'impression que ce sont toujours les mêmes mots qu'on emploie, mais qu'aujourd'hui, le mot élitiste est employé contre le milieu culturel. Comment on redéfinit des mots nouveaux pour parler de ça?
Eh ben, écoutez, il faut écouter les acteurs de la culture parler de ce qu'ils font. Alors moi, si je parle de ma pratique, depuis 35 ans, c'est un démenti absolu à porter à ce genre de discours, au propos de Christelle Morançais ou d'autres. C'est un mensonge. Tous les ans, depuis 35 ans, de septembre à juin, je joue des spectacles dans la France entière. Je joue aussi bien en Ardèche que sur le plateau du Vercors, qu'au Théâtre de l'Odéon à Paris ou qu'au Festival d'Avignon. Donc, vous voyez, le spectre est large. Moi, je rencontre beaucoup, je suis beaucoup en contact avec la population et je joue des spectacles très différents. y compris aussi dans les centres dramatiques nationaux, les théâtres nationaux ou les scènes nationales. Je fais des interventions dans les collèges, dans les lycées. Tous les théâtres dans lesquels je passe font ce travail de maillage avec l'éducation nationale, avec les pratiques amateurs. Donc, parler d'élitisme culturel me pose vraiment une question. C'est comme si moi, quand je rêvais d'une création de spectacle, je pensais essentiellement à la population du 7e arrondissement à Paris. C'est absurde. Donc, toute ma pratique contredit entièrement ces discours. Elle le contredit parce que, si vous voulez, moi, je ne pense pas qu'il existe, par exemple, un public qui préexisterait à une représentation théâtrale, pour parler de ce que je fais. Le public, il se crée au contact d'une œuvre. Il n'existe pas avant. Donc, parler de vérité populaire, parler d'élitisme qu'on opposerait au populaire, tout ça, c'est des mensonges. En plus, quand ils parlent de populaire, ces politiques-là, ils ne parlent pas de la culture populaire, au sens de Rabelais, par exemple. Ce n'est pas ça dont ils parlent. Ils parlent des gens, de l'attente du public, donc du produit que la culture devrait fabriquer pour satisfaire l'attente du public. Vous voyez bien que là, on est vraiment dans des choses qui sont totalement contraires à ce que c'est qu'un acte de création, par exemple. Moi, je crois, si vous voulez, que pour penser une politique culturelle, il faut commencer par arrêter de catégoriser les publics, parce que catégoriser les publics, c'est-à-dire dire qu'il y a un public élitiste, c'est-à-dire que très souvent on dit le théâtre, c'est fait pour les gens, les urbains, d'une certaine classe sociale, dans les centres-villes, etc. Il faut arrêter ces choses-là, parce que c'est faux. Dans la pratique, c'est faux. Quand moi, je joue un spectacle sur Serge Danet, donc qui n'est pas non plus une chose très facile, a priori, sur la cinéphilie, sur le cinéma, etc., et que je suis dans un petit village d'Ardèche, je ne suis pas au cœur d'un centre-ville. Et les gens, ils sont passionnés parce qu'ils aiment ça, parce que ça se crée au moment de la représentation, tout ça. Bon.
Est-ce que vous diriez qu'il y a un problème de formation des élus? C'est-à-dire que comme les élus ne vont plus au théâtre ou ne fréquentent plus les lieux culturels, bah finalement, ils sont déconnectés, ils ne se rendent pas compte de ce que vous venez de décrire.
Ce que vous dites, c'est très, 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 très important. Ça, je pense qu'il y aurait un travail à faire. Il faudrait qu'ils reviennent au théâtre ou qu'ils reviennent au cinéma. Oui, je pense qu'ils ont complètement déserté ces lieux-là. Donc, pour eux, c'est totalement abstrait. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Comment leur expliquer que, par exemple, Othello de Shakespeare concerne à peu près toute une population? Je ne parle pas de la réussite ou du spectacle. Là, je parle du propos. Shakespeare peut concerner tout le monde. Le truc, c'est que pour mener une politique culturelle, il faut avoir en tête que une œuvre de création, c'est quelque chose qui n'est pas quantifiable. On ne peut pas catégoriser parce qu'on ne sait jamais comment on va être touché, quand on va être touché et pourquoi on va être touché par une œuvre. Et donc, il faut ouvrir la possibilité que ces œuvres existent pour ouvrir la possibilité que des publics de catégories sociales très différentes puissent un jour avoir être touché par un spectacle, par un film, par un tableau, que sais-je, mais tout d'un coup, avoir une forme de, ben voilà, comme ça nous est tous arrivé dans nos vies à tous, on est un jour tombé sur un livre qui nous a changé, on est un jour tombé sur un film qui nous a changé, on est un jour tombé sur un spectacle de théâtre qui nous a changé ou de danse qui nous a changé. Et c'est ce champ-là qu'il faut ouvrir. Mais pour l'ouvrir, il faut croire à la capacité sensible et intelligente de l'ensemble d'une population et pas penser qu'il y a une partie de la population qui ne peut pas aller voir Othello de Shakespeare parce que c'est déjà trop élitiste, si vous voulez.
Ça me semble très clair. Merci beaucoup, Nicolas Bouchaud.
Ben merci.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, une nouvelle démission ébranle le musée des arts décoratifs à Paris.
Oui, Johannes Huth a annoncé hier qu'il quittait son poste de président du conseil d'administration quelques semaines après la démission de la directrice générale du lieu. Ces deux départs successifs s'inscrivent dans un contexte social et managérial complexe au sein du musée parisien. Des tensions qui pourraient fragiliser le fonctionnement administratif du musée alors que se prépare pour octobre prochain la grande exposition du centenaire des arts décoratifs.
Et pour finir, Marie, l'Art Institute de Chicago vient de recevoir l'une des plus importantes donations de son histoire.
Jeffrey et Carol Horvitz, un couple de collectionneurs américains, ont légué l'entièreté de leur collection d'art français au musée de Chicago. Ce don regroupe près de 2000 dessins, 200 peintures et 50 sculptures d'artistes français allant du 16e au 19e siècle, parmi lesquels on retrouve Jacques-Louis David, Charles Lebrun ou encore Jean-Honoré Fragonard. L'Art Institute est le deuxième musée des États-Unis en termes de fréquentation et il possède déjà l'une des plus importantes collections d'art français en dehors de la France. Dans le passé, ce couple francophile s'était déjà montré très généreux en donnant des œuvres du 18e siècle au musée du Petit Palais à Paris.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h passées de 38 secondes. Vous êtes sur France Culture.